CFM Villefranche. Le MAG.
Une récente étude statistique fait état de 11 écrans par foyer. Les écrans sont partout et occupent une part non négligeable de temps pour nos adolescents, près de 35 heures par semaine en moyenne. Bonjour Wilfried de Gontran.
Bonjour.
Wilfried Gontran, vous êtes psychanalyste, formateur, enseignant en psychologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse et vous allez animer ce soir à 20h30 sur invitation de la Fédération départementale des conseils de parents d'élèves et l'association familiale laïque une conférence débat intitulée « Les ados et les écrans, réseaux sociaux, harcèlement, etc. » Une conférence pour éclairer, pour donner peut-être des clés aux parents, des recommandations sans diaboliser. Hein, je l'imagine.
Sans diaboliser, bien sûr, oui. Il faudra prendre à la mesure de cet investissement, voire surinvestissement des écrans, qui ne sont d'ailleurs pas que chez les enfants et les adolescents, mais aussi chez les adultes. Et vous faites bien, c'est intéressant d'employer ce terme de diaboliser, parce qu'il ne s'agit surtout pas de dire que les écrans, de statuer sur le fait de savoir si c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Hein, de toute façon, c'est un état de fait. C'est un objet dont on va essayer de savoir comment il faut le réguler. Voilà, le réguler. Et aussi ce que ces écrans nous empêchent de faire aussi. C'est pas que ce qu'ils ajoutent dans nos vies, mais aussi ce qu'ils viennent soustraire.
Ah bah oui, 35 voilà. Heures par semaine en moyenne, ça fait 5 heures en moyenne par jour sur un écran. Ça laisse peu de temps pour faire des vraies choses et c'est une non-vie, hein.
Oui, alors c'est un peu ça que j'essayais d'amener, c'est-à-dire que pendant que les enfants, les adolescents passent leur temps sur les écrans, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Voilà, qu'est-ce qu'ils ne font pas et quelles sont les conséquences de ce qu'ils ne font pas ? Voilà, donc ça c'est un petit peu la face cachée de tout ce qu'on dit autour des écrans, puisqu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'ils regardent, à ce qui les motive, et effectivement... moi, je mettrai l'accent dans cette conférence, dans cette intervention, sur ce qui, finalement, passe à la trappe avec ce surinvestissement.
Alors, il y a le temps, mais il y a le contenu et les dérives aussi. Hein. Vous interviendrez là, aujourd'hui, jeudi 18 novembre, journée nationale, non au harcèlement. Vous en parlerez très certainement ce soir. En tant que psychanalyste, quel constat vous faites de l'usage du numérique par nos adolescents et quels en sont les effets aujourd'hui ?
Ben, le constat, alors il faudra distinguer, faire quelques distinctions sur l'utilisation, concernant l'utilisation chez les enfants et chez les adolescents. Je crois qu'il faut pas tout mélanger aussi. Voilà, les fonctions sont différentes. Et notamment à l'adolescence, pour ce qui concerne l'adolescence, je parlerai de ce que les écrans viennent comme être utilisés comme dans un processus d'évitement du processus adolescent qui est quand même le moment de l'ouverture sur la vie amoureuse, sur l'autre dans une autre dimension. Voilà, donc les écrans aussi ont une fonction. Il y a plusieurs fonctions des écrans. Et je crois que ce serait dommageable aussi de n'avoir qu'une considération sur ces questions-là.
Oui, il y a des règles, hein, 3, 6, 9, 12, je crois, qui correspondent au développement naturel de l'enfant. Mais là, on est avant l'adolescence, et c'est peut-être dès ces premiers instants que ça se joue aussi, et puis c'est l'exemplarité familiale par rapport à l'usage des écrans. Espace d'expérimentation sociale aussi pour nos ados, notamment les réseaux sociaux.
Oui, alors c'est sur ça aussi que je voulais venir en parlant de l'adolescent, en commençant en parlant de l'adolescent, c'est que ces réseaux sociaux sont-ils si sociaux que ça ? C'est-à-dire qu'on a choisi de les appeler des réseaux sociaux, mais ça aussi je voudrais problématiser ça, c'est-à-dire est-ce qu'on se rencontre vraiment dans les réseaux sociaux ? Voilà, et il y a tout ce déchaînement aussi, toute cette part de on parlait du harcèlement, il y a quelque chose aussi qui est permis par le dispositif du réseau social. Bon, je rappelle que sur un réseau social, nous ne sommes pas en présence des autres. Voilà. Alors ça sera peut-être quelque chose à débattre. Hein. Beaucoup risquent de me répondre que si, nous sommes bien en relation avec les autres. Mais là, en tant que psychanalyste, j'aurais à rappeler un certain nombre de points pour peut-être venir questionner la nature véritablement relationnelle de ce qui se passe dans un réseau social. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il y a des règles du bon usage des écrans pour les ados, pas plus d'une heure par jour, seulement le week-end?
Je trouve que quand vous faisiez référence à la règle du 3-6-9-12, donc de Serge Tisseron, qui est vraiment quelqu'un qui a élaboré des choses très précises et très intéressantes là-dessus, hein. Cette règle 3-6-9-12 ne se contente pas de donner des préconisations comme ça au nom d'un savoir psychologique ou psychanalytique, mais donne les raisons aussi de ces préconisations. Et je pense qu'il ne faut pas les prendre à la lettre, mais comme de bonnes bases, il me semble, pour dans chaque foyer réfléchir à ce que doit être la limitation, puisque de toute façon, les objets sont là, ces objets sont là, il s'agit de les limiter pour que l'enfant et l'adolescent en question continuent à faire d'autres expériences dans la vie. Voilà, de toute façon, la voie est de ce côté-là, du côté de la limitation et du comment limiter.
Une soirée, on l'entend, pour nous aider à exercer une parentalité numérique. Est-ce qu'il y a des petites choses à mettre en place à la maison pour aider nos adolescents, on peut parler d'addiction et de dépendance, à décrocher de ces écrans, justement, en s'intéressant à ce qu'ils regardent, en l'expliquant, les effets de l'écran, peut-être en achetant un chronomètre pour qu'ils prennent conscience du temps passé devant l'écran?
Ouais, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi... Alors voilà, les parents diront toujours qu'ils sont en difficulté, nous parlerons de ce qui reste difficile. Mais moi, je remarque que beaucoup de parents, ont aujourd'hui cheminé sur la manière de limiter ça. Donc effectivement, de se mettre d'accord sur des règles, responsabiliser l'enfant, oui, mais bon, on sait que de toute façon, si on lui donne un chronomètre, il faudra quand même surveiller qu'il se réfère bien à son chronomètre, donc il faudra de toute façon un adulte, voilà. Et je crois pouvoir dire que voilà, les personnes ont beaucoup cheminé sur l'idée qu'il est absolument, éminemment nécessaire de limiter ce rapport aux écrans, ont déjà mis des règles. La question, ça sera plutôt, qui va rester, c'est comment tenir bon sur ce qui a été décidé. Voilà, c'est peut-être là qu'il reste encore des choses à discuter avec les parents et que les parents doivent être soutenus, confortés. Mais après, je crois qu'il y a beaucoup de foyers qui ont adopté des comportements tout à fait adaptés. Et d'autres tout à fait inadaptés, hein. On parle pas que... Je suis pas en train de dire que tout le monde a un comportement adapté. Mais je crois que je remarque, moi, que les parents ont véritablement fait preuve d'une recherche depuis ces années où les objets existent et ont élaboré des choses. Voilà. Et malheureusement, pas appliquées par tous. Parce que la tentation est grande, effectivement, de laisser un enfant devant les écrans parce que pendant ce temps-là, il est tranquille. Mais c'est un temps de tranquillité qui risque de se payer très cher par la suite.
C'est pour combler l'ennui, hein, souvent, c'est ce que disent les ados. Donc, on a peut-être une responsabilité en tant que parents en leur faisant des propositions alternatives.
Absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas devant les écrans? Et l'ennui, effectivement, comment on supporte l'ennui? Je trouve intéressant que vous introduisiez ce terme, et il faudra en parler, de la question de l'ennui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société dans laquelle... l'ennui a véritablement sa place. Voilà, on doit faire quelque chose à chaque minute de sa vie, d'ailleurs en rendre compte. Il s'agit aussi d'en rendre compte. Donc comment tout ça continue à prendre sa place alors que effectivement l'ennui fait absolument partie de ce qui est à vivre comme expérience pour se construire psychiquement et devenir un adulte sereinement.
J'évoquais en introduction 11 écrans par foyer. C'est donc une récente étude statistique qui fait état de cet équipement. On ne peut pas exiger d'un ado qu'il laisse tomber ses écrans si nous, parents, on les utilise en masse aussi.
Oui, alors là, effectivement, on arrive à la génération déjà des parents écrans. Donc, voilà, comment être accompagné? Peut-être que là, il faut imaginer des nouveaux dispositifs. C'est vrai que ça m'était arrivé lors d'une conférence que je faisais sur le virtuel, d'être interpellé par un parent qui disait effectivement, mais moi, comment je vais jouer avec mon enfant alors que moi-même, je n'ai appris à jouer qu'aux jeux vidéo. Voilà, donc ça, c'est une vraie question et évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais vous voyez bien que c'est un champ d'expérimentation, il y a des dispositifs à créer, mais c'était tout à fait légitime à ce parent-là d'intervenir comme ça et de poser un véritable problème.
Mettre en place
ça voulait dire, pardon, ça voulait dire que ce parent, il avait envie. Il avait envie quand même de peut-être proposer à son enfant autre chose que ce que lui avait eu. Voilà. Et ça, c'est déterminant dans l'affaire.
Mettre en place un jour sans écran, un jour off, voilà, pour toute la famille, ça peut faire partie des solutions à mettre en place à la maison quand on sent qu'il y a un problème en termes de contenu ou de temps passé devant les écrans.
Oh ben j'imagine, j'espère que ça existe, des jours off ou des jours pendant lesquels on essaye de faire du off. Oui, je pense que tout le monde peut le supporter. Dès lors que l'objet n'est pas là, c'est quand même aussi, il y a une part d'objet imaginaire aussi dans cet objet très réel qu'est le smartphone ou la tablette. Il y a une part imaginaire. On imagine ne pas pouvoir s'en passer et quand on l'a pas, on peut aussi constater que le monde ne s'effondre pas. Voilà. Et effectivement, c'est intéressant de poser cette question parce que les parents peuvent avoir la crainte aussi que les choses se passent mal, qu'ils puissent ne pas pouvoir s'en passer. Et donc, eux-mêmes avoir une angoisse de cette expérience. Mais je crois pouvoir dire que, voilà. Après, il y a des cas particuliers où certains enfants ne peuvent pas s'en passer. Et là, il y a des choses à examiner aussi au cas par cas. Il y a peut-être des choses particulières aussi chez certains enfants dans le rapport aux écrans. Voilà. Donc, moi, mon souci en tant que psychanalyste, évidemment, c'est, vous l'avez compris, je pense, c'est le cas par cas de ne pas trop forcer vers des considérations générales et qu'il y a des choses qui peuvent être dites, mais surtout examiner à chaque fois les choses au cas par cas.
Les ados, les écrans, les réseaux sociaux, le harcèlement, il en est question aujourd'hui avec cette journée nationale non au harcèlement. Ce soir à 20h30 dans les locaux de la FCPE et donc une soirée que vous animerez, Wilfried Gontran, une conférence débat aussi avec des questions qui vous seront adressées à la fin de votre intervention. Rendez-vous à la FCPE, 9 chemin du Faubourg Savignac ce soir à 20h30. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et à ce soir donc à la FCPE.
Merci à vous.
CFM Villefranche, le MAG.